Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Dimanche, l'Ukraine célébrait sa fête nationale qui commémore le 24 août 1991 son indépendance. Une fête à l'écho particulier, alors même que la Russie grignote petit à petit l'est du pays et qu'une négociation directe entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se fait attendre. Orchestrée par Donald Trump, les négociations sont considérées comme favorables aux ambitions de ce dernier. En l'échange d'un gel de la ligne de front sur d'autres terrains, l'Ukraine céderait la totalité de l'oblast de Donetsk, même des territoires que la Russie n'a pas conquis militairement. Alors, avec l'oblast de Louhansk quasiment sous contrôle russe, la Russie mettrait donc la main sur l'entièreté du Donbass, région au cœur de la guerre, dont une partie a déjà été annexée par la Russie. Alors pourquoi cette région est-elle si importante dans la stratégie de Vladimir Poutine et dans l'imaginaire russe à partir de 2015, puis à partir de l'annexion officielle en 2022? Quelle politique d'assimilation à la Russie, soit de russification, y a été menée par Moscou? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Alexandra Goujon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Bourgogne-Europe et l'autrice d'un ouvrage intitulé « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre » qui a été réédité au Cavalier Bleu en 2023. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Et commençons, Alexandra Goujon, par l'actualité. Je le disais, dimanche dernier, l'Ukraine a fêté sa fête nationale, c'est le cas de le dire, sa fête de l'indépendance. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine d'abord et comment cette fête a-t-elle été abordée par les officiels ukrainiens, par les représentants de l'État ?
Alors, cette fête de l'indépendance, elle est extrêmement importante parce que c'est le plus long moment d'indépendance de l'État ukrainien. Il y a eu une très courte indépendance autour de 1918-1920, mais c'est le plus long moment d'indépendance. Et d'ailleurs, c'est un moment pour lequel l'Ukraine paye aujourd'hui le prix fort. Volodymyr Zelensky s'est adressé, comme il le fait régulièrement, à enregistrer une vidéo sur la place de l'indépendance. Il ne le fait pas systématiquement. Là, il l'a fait en montrant différentes images, en montrant ce que cette place représentait du point de vue du combat pour la liberté et en montrant également ce champ de drapeaux qui symbolise en fait les soldats morts au combat et qui est une initiative citoyenne ukrainienne.
On va justement entendre un extrait, la voix de Volodymyr Zelensky.
À notre kilomètre zéro, où commencent toutes nos routes, se trouve la distance avec les plus grandes villes ukrainiennes. Notre Donetsk, notre Louhansk, notre Crimée. Et aujourd'hui, ces balises prennent un sens tout particulier. Elles ne marquent plus de simples kilomètres. Elles nous rappellent que tout cela, c'est l'Ukraine. Nos compatriotes s'y trouvent et aucune distance ni occupation temporaire ne pourront changer ça.
Que dit-il Volodymyr Zelensky? Notre Donetsk, notre Louhansk, notre Crimée.
Oui, il le dit, assez régulièrement. Hein. N'oublions pas que la Crimée donc est annexée en 2014, que les régions de Donetsk et de Lugansk sont séparatistes hein, entre 2014 et 2022. Puis l'indépendance est reconnue par la Russie quelques jours avant l'invasion à grande échelle et annexée officiellement, donc en septembre 2022, par les soi-disant référendums organisés sur leur territoire.
Est-ce que l'enjeu de ce discours était aussi de faire oublier ou d'amoindrir même dans l'imaginaire la mauvaise passe militaire que l'Ukraine est en train de traverser, puisque la Russie grignote peu à peu, je le disais, ce front de l'Est?
Oui, rappelons les choses. Par exemple, la région de Donetsk était, lorsqu'elle est séparatiste, elle représente à peu près 55% de la région elle-même, c'est la région occupée. Aujourd'hui, la Russie occupe 75% de cette région. Donc, il reste 25% sous administration ukrainienne. Je ne pense pas qu'il cherche à faire oublier ce qui se passe sur le front, pour en reparler. Je pense surtout qu'il souhaite répondre justement à cette proposition qui est plutôt une rumeur, en fait, quelque part, parce que il y a rien d'écrit sur le papier. C'est
rien
une rumeur.
Tangible.
Voilà. C'est quelque chose qui a circulé où Vladimir Poutine aurait demandé l'intégralité du Donbass. Et en Ukraine, on appelle ces régions des régions temporairement occupées, que ce soit pour le Donbass, que ce soit pour la région de Kherson, celle de Zaporijia, voire même de la Crimée. On appelle tout. Et là, dans la traduction, je ne sais pas si ça a été dit, mais Zelensky dit bien des régions temporairement occupées, ce qui est le vocable, j'allais dire, officiel en Ukraine aujourd'hui.
L'enjeu de cette discussion avec vous, Alexandra Goujon, c'est justement de tenter de comprendre en quoi le Donbass, pourquoi le Donbass intéresse-t-il à ce point Vladimir Poutine. Commençons peut-être par ce que représente le Donbass côté ukrainien. Vous nous avez expliqué en préparant cette émission qu'il s'agit pour les Ukrainiens d'un mythe. C'est une région mythique. En quoi ?
Alors, c'est un mythe qui tente aujourd'hui à être déconstruit. Il y a un mythe dans l'Empire russe, mythe du région prospère. C'est à ce moment-là que le Donbass va s'industrialiser, à partir de la fin du 19e. Et lorsque les communistes prennent le pouvoir sur cette région, en quelque sorte, ils essayent de faire oublier que ce sont des capitaux occidentaux qui, au départ, ont industrialisé le Donbass. Et donc, en 2014, lorsque vous allez dans le Donbass et que les gens commencent à discuter, ils se disent « Mais qu'étions-nous avant 1917 ?» Parce que on a l'impression, en fait, pendant toute la période soviétique, que l'histoire du Donbass commence en 1917 avec le pouvoir communiste. Et là, moi, lorsque je vais un petit peu dans le Donbass, je vois des personnes, des militants surpris de retrouver dans des cimetières des tombes de Polonais, de Juifs, de Belges, se rendant compte que dans certaines villes du Donbass, en fait, il y avait bien d'autres populations que simplement la population même slave, j'allais dire ukrainienne ou russe. Et il y a tout le mythe de l'industrie de charbon, le stakhanovisme, la manière dont en fait l'homme se surpasse pour en fait dépasser les normes de production, etc. On ne sait même pas trop d'ailleurs si Stakhanov a existé en fait. Le mythe du mineur ultra performant. Et derrière cela, alors il y a beaucoup dans le Donbass après, en raison de l'industrialisation de très long terme, il y a des migrations de population. Ce qui fait que le Donbass, dans sa partie rurale, on peut parler ukrainien, et puis il y a beaucoup de Russes qui sont venus dans les villes pour travailler dans les usines et qui parlent russe. Il y a beaucoup de mariages mixtes, par exemple, dans le Donbass. Et ce qu'on a oublié souvent pendant toute la période soviétique et qui a été complètement, j'allais dire, qui n'a jamais vraiment revécu quelque part et qui redécouvert aujourd'hui, c'est toute la résistance, j'allais dire, ukrainienne dans le Donbass. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un dissident qui est mort dans les goulags soviétiques, Vassil Stous, qui vient du Donbass. Et donc aujourd'hui, on essaye de voir un petit peu comment existait cette résistance. Et juste pour rebondir sur l'indépendance, eh bien figurez-vous qu'au moment de l'indépendance, là, vous avez les réfugiés du Donbass qui se retrouvent sous administration ukrainienne, qui font circuler sur les réseaux sociaux, justement, toutes les manifestations qu'ils ont pu faire en 2014 pour protester contre le pouvoir séparatiste qui va ensuite devenir russe.
On va revenir sur l'indépendance. Je voudrais qu'on reste un instant sur ce mythe économique, ce mythe de la production que vous décriviez à l'instant. Pourquoi est-il affaibli ? Qu'est-ce qu'il a étiolé ? Est-ce que c'est d'abord et avant tout la guerre qui a cours aujourd'hui ? Ou bien depuis 2014, depuis même les années, les décennies qui ont précédé, cette économie du Donbass, si spécifique, liée à la métallurgie, liée à la grande production industrielle, s'était déjà affaiblie.
Oui, alors bien sûr qu'il y a les années 90. L'indépendance, c'est à la fois le retour à la liberté, j'allais dire le retour à la démocratie, et en même temps le passage de l'économie collectiviste à l'économie de marché, avec beaucoup de déclassement social, des usines qui ferment, d'autres qui sont rachetées à bas prix et qui vont réussir à prospérer. Et donc, bien évidemment que le potentiel économique du Donbass s'est affaibli. Il n'en reste pas moins que, avant 2014, le Donbass est une région, on va dire, économique prospère, avec beaucoup d'habitants, Et en même temps, ce qu'on dit, c'est que elle bénéficie de subventions de l'État central pour pouvoir continuer aussi à prospérer. Et alors, là où le potentiel industriel va clairement décliner, c'est à partir de 2014, parce qu'il y a des combats. Il n'y a pas de combat à proprement parler dans la ville de Donetsk, mais dans des villes, on va dire, industrielles proches. Et puis, j'allais dire, un des symboles aujourd'hui, quelque part, de la destruction du potentiel économique, c'est l'usine Azovstal, victime donc à Mariupol d'un siège, est totalement détruite. Alors, il y a Azovstal, mais il y en a une autre, il y a une très grande usine aussi, une autre grande usine métallurgique, qui a été complètement détruite, tout comme la ville de Mariupol a été largement détruite.
Vous parlez de la production, des moyens de production. Il y a par ailleurs une fuite des femmes et des hommes, de celles et ceux qui produisent. C'est cela aussi qui s'est complètement appauvri dans la région du Donbass.
Oui. Alors, en fait, je pense que entre 2014 et 2022, on peut dire qu'il y a la phase quand même meurtrière du conflit qui va jusqu'à peu près l'été 2015, printemps-été 2015. Et ensuite, on va dire qu'on est dans un conflit de basse intensité. Ce qui permet, j'allais dire, de stabiliser un petit peu la situation, notamment dans les deux régions donc séparatistes. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elles restent séparatistes du point de vue du droit. La Russie ne reconnaît pas leur indépendance, mais à ce moment-là, elle va les russifier. Alors, n'oublions pas que ces combats meurtriers, quand même, de 2014-2015, pour revenir à votre question, ils ont fait déjà fuir des personnes. En Ukraine, également en Russie. Et la fuite est encore plus importante après 2022, forcément. Puisque là, les combats s'intensifient et on voit des villes rasées. J'ai parlé de Mariupol, qui entraîne une fuite de réfugiés. On peut penser à la ville de Bakhmout, par exemple, dans la région de Donetsk également. Et aujourd'hui, dans la région de Donetsk, les 25% dont je parlais, c'est-à-dire sous administration ukrainienne, les derniers chiffres aujourd'hui disent à peu près 270 000 personnes. Et les évacuations continuent au fur et à mesure du grignotage dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on a des villes qui sont évacuées progressivement.
En vous écoutant, Alexandra Goujon, on se demande pourquoi Vladimir Poutine s'intéresse tant alors au Donbass. On comprend que ce n'est pas essentiellement pour des raisons économiques, puisque au fond, les choses se sont légèrement rabougries, si je puis dire, depuis plusieurs années, au moins depuis 2014. Alors que cherche Vladimir Poutine, justement, à travers le Donbass?
Alors je dirais que le Donbass est une fausse fixation, en quelque sorte, une fausse obsession.
De Vladimir Poutine.
Oui, de Vladimir Poutine et de ceux qui défendent l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. D'abord, je pense qu'il y a cette idée que ce n'est pas une question de territoire. L'invasion de l'Ukraine, c'est la question de l'État ukrainien qui est au centre. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est amoindrir l'État ukrainien autant que possible, sachant qu'ils n'ont pas réussi à le récupérer. Après, la question, c'était quand même au départ de vouloir prendre le pouvoir à Kiev, ou de mettre une marionnette pro-russe à Kiev. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc là, l'idée, c'est quand même d'amoindrir l'État ukrainien. Et alors, la focalisation sur le Donbass, elle tient au fait aussi, pas simplement, j'allais dire, au mythe qui doit exister quelque part, de dire que le Donbass a toujours été russe, puisqu'il était déjà dans l'Empire, vous voyez, et puis qu'on l'a largement russifié. C'est le territoire, j'allais dire, sur lequel il y avait des troupes russes dès 2014. Donc aujourd'hui, ça fait 11 ans quand même qu'on essaye de prendre le Donbass, que les Russes essayent de prendre le Donbass. Donc si vous voulez ne pas réussir à prendre le Donbass pour la Russie militairement aujourd'hui, c'est quand même difficile à admettre. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine essaye de gagner du temps, parce qu'il pense qu'il peut y avoir, en fait, à un moment donné, un craquage du front et que la Russie pourrait prendre non seulement le Donbass, mais n'oublions pas qu'il y a une région voisine, Dnipropetrovsk, qui commence déjà à être annexée. Donc voilà, il y a à la fois cette focalisation, j'allais dire, sur le Donbass comme symbole, mais l'idée, c'est surtout de diminuer l'État ukrainien au maximum et de le déstabiliser à long terme. Et tant que l'État ukrainien combien de temps que Zelensky continuera à dire que le Donbass est ukrainien, quelque part, il y aura encore plus d'obsession de l'autre côté, vous voyez, parce qu'il y a l'idée de prendre, en fait, ce que la Russie considère comme étant sienne, cette région, en fait. Et la Russie considère qu'en fait, elle peut prendre le territoire, n'importe quel territoire qu'elle considère comme étant le sien.
Vous avez parlé, Alexandra Goujon, d'une date 2014. C'est aussi la date au cours de laquelle des révolutions anti-Maïdan ont vu le jour dans le Donbass. Certains ont même osé appeler ça un printemps russe. Il faut tenter de nous expliquer cette fois-ci l'impact que ce soi-disant printemps russe a eu dans la région et notamment pour permettre à la Russie de progresser idéologiquement cette fois-ci.
Oui. Alors, dans cette région, si vous voulez, on va dire que depuis l'indépendance de l'Ukraine, il y a une population qui a, des opinions différentes, notamment, je parle avant 2014, notamment sur la politique étrangère de l'Ukraine. On comprend bien que lorsqu'on est dans le Donbass, lorsqu'on a une industrie, une économie qui est tournée vers la Russie, c'est-à-dire où les ventes sont principalement vers la Russie, que cette population considère que, eh bien, il est préférable d'avoir de bonnes relations avec la Russie. La question est un petit peu différente aujourd'hui, puisque ce n'est pas qu'une question de relations commerciales. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la russification, elle passe par le pouvoir russe. Et là, ça change quelque chose. C'est-à-dire que les soi-disant forces qu'on a pu qualifier forces politiques pro-russes en Ukraine, c'est-à-dire pro-russe, ça voulait dire quoi ? Favorable à de bonnes relations avec la Russie, ce qui ne veut pas dire forcément être administré par la Russie, c'est-à-dire avoir des personnes qui viennent de Russie pour gouverner les territoires, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas entre 2014 et 2022. La Russie, en fait, avait procédé de la manière suivante, c'est-à-dire la prise de territoire avait été faite par des forces locales, mais aussi par l'armée russe, même si c'était nié, mais aussi des forces spéciales qui étaient venues de Crimée dans certaines régions pour justement occuper ou lancer l'occupation. Et ensuite, on avait ukrainisé le pouvoir politique, tout en russifiant un certain nombre de pratiques, la langue russe, le rouble, l'accès au marché public, là je parle entre 2014 et 2022. Donc, on avait quelque part procédé avant l'annexion soi-disant légale de 2022, on avait procédé à une sorte d'annexion de fait. C'est-à-dire, ce n'était pas comme la Crimée qui fonctionnait sous la loi russe, mais la loi des pouvoirs séparatistes était une loi largement compatible avec la loi russe.
Alors, on va prendre un exemple, parce qu'il y en a un parmi d'autres qui est passionnant, c'est l'exemple du passeport, pour comprendre cette russification. On parle même de passeportisation. Alors, ce n'est pas un passeport comme les autres, en fait, c'est plutôt une carte d'identité, mais qui permet d'avoir accès à un certain nombre de services publics, au sens premier du terme. Racontez-nous ce phénomène de passeportisation.
Oui, alors le passeport, c'est, j'allais dire, à la différence de la France où on parle et de carte d'identité et de passeport. Le passeport est effectivement un document administratif qui fonctionne comme une carte d'identité.
C'est pas un document qui permet de voyager.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on a parlé de passeport intérieur dans la période soviétique et de passeport extérieur. Il y avait celui pour voyager et celui qui servait en interne. Et en fait, cette passeportisation, alors d'abord, petit élément, elle a existé dans d'autres régions séparatistes. J'essaye d'élargir un petit peu la focale. Elle a existé notamment en Abkhazie, en Ossétie du Sud, des régions séparatistes en Géorgie qui sont soutenues par le pouvoir politique russe. Là, dans le Donbass, à partir de 2014, on voit une passeportisation se mettre en place. De manière, j'allais dire, plutôt lente, extrêmement lente. En 2019, juste avant la prise de pouvoir de Zelensky, il y a un décret qui va accélérer en quelque sorte cette passeportisation. Alors même qu'on est encore, j'allais dire, on a des républiques séparatistes non reconnues, dont l'indépendance n'est pas reconnue pour la Russie. Et d'ailleurs, la Russie joue beaucoup sur ces deux tableaux. Ça dépend pas de nous, ça dépend d'eux, etc. pendant toute cette période. Et puis, la passeportisation va s'accélérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un décret, je crois, du mois de mars 2025, qui dit qu'en quelque sorte, à partir du 10 septembre, tous les citoyens doivent avoir le passeport russe pour pouvoir accéder effectivement à la propriété. Enfin, si vous êtes propriétaire aujourd'hui dans le Donbass, vous devez prouver que vous êtes citoyen russe pour vous pouvoir. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui pour pouvoir percevoir les pensions de retraite. Il y a des personnes qui ont attendu très longtemps et jusqu'à ne plus pouvoir obtenir de pension de retraite. Et effectivement, j'entendais donc un témoignage récent fait par une journaliste française, puisque petite parenthèse, on ne peut pas faire de sociologie dans ces territoires-là. Donc la seule manière...
Ce sont les journalistes qui apportent les informations.
Les journalistes apportent des informations via des personnes qui quittent les territoires et qui racontent leur histoire.
Vous dites que la passeportisation avance de plus en plus rapidement à marche forcée. On observe tout de même dans les territoires, parmi les populations, des résistances fortes. Il faut un moment pour que ces populations acceptent de prendre le passeport. Il y a des micro-résistances, à part en Crimée peut-être, où c'est un territoire où la passeportisation avance plus vite qu'ailleurs. Dans le Donbass, c'est plus compliqué.
Oui, alors en fait, ce sont encore une fois des résistances. Alors, il y a les résistances dont on ne peut avoir connaissance qu'en ayant écouté des personnes les raconter, hein, c'est-à-dire si vous leur demandez, alors vous, ah non, j'ai pas pris le passeport russe, j'ai attendu que, etc. Donc via des témoignages. Et puis, alors la résistance, elle s'observe aussi par des photos sur les réseaux sociaux où des personnes tiennent dans leurs mains le passeport russe avec un petit message écrit à la main, je serai toujours ukrainien ou je serai toujours ukrainienne. La résistance, elle existe aussi en Crimée. Il y a notamment un mouvement de femmes résistantes en Crimée qui témoignent bien sûr sous couvert d'anonymat. C'est extrêmement difficile d'être résistant. C'est aussi communiquer parfois via les enfants. Hein. C'est difficile parce que les enfants, c'est compliqué de les brider. J'ai notamment de leur dire qu'on leur dit des choses qu'ils ne doivent pas répéter à l'école, etc. Des formes de résistance aussi dans le Donbass, c'est par exemple de ne pas envoyer les enfants à l'école et de continuer à leur faire faire l'école à la maison. Mais vous pouvez avoir un voisin qui communique aux autorités le fait que eh bien, sa voisine garde l'enfant à la maison qui ne va pas à l'école. Et là, les autorités peuvent s'en inquiéter. Vous avez énormément de moyens de pression. Et en dehors de la passeportisation, ce que j'aimerais quand même aussi souligner, c'est que cette occupation... elle se fait aussi avec des exactions. Hein. Les personnes qui sortent des territoires occupés, il y a des personnes qui nous racontent comment elles sont victimes à l'école de trop grandes, fortes pressions et donc elles quittent le territoire. On a aussi des personnes qui sortent de centres de détention, de torture, etc. Donc, on a des personnes disparues hein, dans ce conflit, hein, dont on n'a plus du tout aucune nouvelle depuis 2022.
Extrait d'un documentaire diffusé sur Arte et intitulé « Donbass, voyage en terre brûlée ». Il date de 2023.
Nous sommes devenus des citoyens de la Fédération de Russie. Alors, évidemment, il est très important pour les enfants d'apprendre la culture de leur propre pays. Avant, on faisait de la danse moderne, souvent ukrainienne. Nous dansions que très peu de chorégraphies populaires. Mais nous ne rejetons pas les danses ukrainiennes, ni aucune autre danse étrangère, comme les danses espagnoles. Les bras, ne les collez pas n'importe comment. C'est un mouvement libre. Comme toute la danse, c'est une âme ouverte.
La culture, Alexandra Goujon, à quel point est-elle vecteur de russification aussi dans le Donbass?
Alors... La culture, j'allais dire, prise au sens large, tout d'abord, ça passe quand même par l'école, hein, la russification. Donc, il y a toute la question de la langue russe. C'est-à-dire, avant, il y avait des enseignements en langue ukrainienne, ils n'existent plus. Il y a les manuels d'histoire. On vous raconte qu'on est dans un territoire russe. Donc, on vous fait l'histoire de la Russie, avec la grande guerre patriotique qui commence à 41. Et on nie le pacte Molotov-Ribbentrop de 39-41. Enfin, bon, on a... C'est l'histoire russe. les personnalités, j'allais dire, culturelles russes qui reviennent sur le devant de la scène, des statues de Lénine déboulonnées qui ont été remises en place, des monuments en l'honneur de certains événements ukrainiens qui sont détruits, notamment à Mariupol, hein, les monuments notamment qui commémoraient les victimes de la famine de 1932-33, hein, qui a fait près de 4 millions de morts en Ukraine. Donc on a l'histoire, hein, qui est, j'allais dire, totalement russifiée. Et ça fait partie aussi des actes de résistance. Je parlais tout à l'heure des passeports, mais vous avez aussi, bien évidemment, la couleur jaune et bleu que l'on peut arborer, non pas dans la rue, mais dans ce cas-là, on fait une photo de soi avec, par exemple, les couleurs jaune et bleu et on les diffuse pour montrer qu'il y a encore de l'Ukrainité dans le Donbass.
Merci beaucoup, Alexandra Goujon. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Bourgogne-Europe, l'autrice d'un ouvrage intitulé « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre », réédité en 2023 aux éditions du Cavalier Bleu. Merci d'être venue ce soir dans Questions du soir.